Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Comme chaque vendredi, nous parlons d'éducation. Nous nous interrogeons sur les difficultés des parents avec leurs enfants. C'est vrai qu'avec les évolutions de la famille, les parents ne savent pas toujours comment se comporter avec leurs enfants, comment poser des limites aux adolescents en douceur, comment leur donner un cadre précis, respecter leur personnalité en même temps. Bref, concilier ce qui semble difficile à concilier, autorité, bienveillance. Je dirais que c'est devenu le rôle de parents une question de haute diplomatie, à peu près aussi insoluble que le conflit au Proche-Orient, mais restons zen, l'éducation fait tout de même beaucoup moins de morts. Alors vous allez nous appeler les voisins si vous êtes parents, mais tout simplement aussi grands frères, pourquoi pas, pour dialoguer avec nos invités qui ont de vrais bons conseils à partager. Je vous donne notre numéro de téléphone, n'attendez pas la fin de l'émission pour nous appeler, 33 1 84 22 71 71. Et puis bien sûr aussi tous les messages qui sont postés sur les réseaux sociaux que je peux relayer sur Facebook et sur Twitter. Brigitte Kramer et Christine Dimaggio-Donati, bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous arrivez du sud de la France où vous travaillez et vous publiez un guide « Quand tout devient enfin facile avec nos enfants ». Vous allez nous expliquer comment vous, avec vos approches psychologiques, un voile s'est déchiré dans la façon d'aborder la parentalité. Quelques messages pour vous, mesdames. Kadi à Abidjan nous dit « Votre enfant ne suivra pas vos conseils, il suivra plutôt votre exemple. » Et cette citation, nous dit-il, reflète mon opinion. Il faut commencer par faire ce que vous voudriez que vos enfants fassent parce qu'ils s'inspirent de leur environnement, de leur cadre familial. Et il faut ensuite, évidemment, les accompagner en suivant leur fréquentation, leurs résultats scolaires et surtout être à leur écoute. Un enfant qui n'est pas encadré risque de dérailler. Il faut toujours privilégier la communication au coup de fouet et au cri. Alors sur l'éducation par l'exemple, on a un autre auditeur aussi qui est à Libreville au Gabon et qui nous dit « Moi j'ai 30 ans, j'ai pas d'enfant. J'ai peur parce que je ne sais pas si je vais réussir à bien élever mes enfants. » Je ne sais pas si vous rencontrez des gens à l'heure actuelle qui ont peur à l'idée de devenir parent, de ne pas être un bon parent. Et avec toutes les influences extérieures, nous dit cet auditeur, ça me paraît compliqué. J'ai peur de me retrouver face à un mur en essayant de leur montrer le droit chemin. » Et puis il y a Gloire qui est à Bukavu, en République démocratique du Congo, qui nous poste ce message. « Chez nous, un proverbe sage stipule que l'éducation d'un enfant commence 20 ans avant sa naissance. »
Wow.
Là, c'est quand même, ça s'appelle mettre la pression. Ça veut dire qu'être un bon parent ou non dépendra de l'environnement dans lequel on a évolué soi-même. L'éducation que l'on donne à ses enfants est le reflet de celle que l'on a reçue de ses propres parents. Voilà. Et puis Sounan à Abidjan nous dit « Moi, j'ai pas eu de bons parents, mais je me suis promis d'en être un très bon. »
C'est joli.
Comment vous réagissez à ces messages, Christine?
Alors déjà, beaucoup de choses hein, dans vos témoignages, avec de sages paroles, je trouve, pour commencer. Parce que cette personne qui dit, finalement, et nous partageons son point de vue, les enfants ont du mal à nous obéir, mais ils n'en ont aucun à nous imiter. Donc c'est vrai que la bonne sagesse, c'est vraiment une idée, nous, qui nous est chère, qui est de dire, soyons des modèles déjà ambulants. Il n'y a rien de plus compliqué pour un enfant que de comprendre que « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Pour brouiller les cartes et les pistes de l'éducation, là, je trouve que c'est vraiment une bonne façon de s'y prendre. Donc, oui, montrons ce que nous voulons qu'ils fassent à leur tour. Et finalement, le basique d'une bonne relation avec nos enfants ou de l'éducation, ben, c'est déjà que nous-mêmes, en tant que parents, ben, nous montrions l'exemple.
C'est ça. Donc, quand on devient parent, il faut devenir quelqu'un d'irréprochable, ou presque.
De rester un être humain.
Mais vous trouvez, Christine et Brigitte Kramer, vous trouvez qu'il y a une incohérence plus importante aujourd'hui entre l'attitude des parents dans la vie et puis les discours aussi qu'ils tiennent à leurs enfants ou pas?
Alors, peut-être pas plus d'incohérence. En tout cas, on est parti de modèles qui étaient avant beaucoup des parents dominants, c'est-à-dire que, et peut-être encore dans beaucoup de pays, dans beaucoup de cultures, c'est le parent qui sait et l'enfant, moi je sais, toi tu suis. C'est le parent qui va dire comment il faut faire, quand on doit le faire, pourquoi on doit le faire, ou quelquefois même pas expliquer. Donc du coup, ce qui a évolué maintenant, enfants et ce qui est un peu plus compliqué, c'est que les enfants, comme le disait un autre auditeur, ont d'autres modèles que les parents, ont d'autres sources d'informations, et à un moment donné, ils vont se poser la question, qu'est-ce que je dois faire entre ce que me dit mon parent et puis ce que j'ai moi envie de faire. Et comme les parents, petit à petit, comprennent petit à petit qu'être dominant, ça ne marche plus à cause de cette société qui a tellement changé.
Voilà. Ben, en effet, qui passe entre autres par un petit smartphone, hein, par hasard.
Par hasard, connecté au monde entier en plus. Donc l'idée, c'est qu'en effet, les parents, ils doivent, ils peuvent se questionner maintenant sur quel type de parent moi j'ai envie d'être.
Bien sûr, on n'est pas là pour déconstruire des modèles de parents, mais pour donner des pistes et pour recomposer un rôle de parent avec différents conseils, différents modèles.
Je ne dirais pas déconstruire, vous avez raison, parce que c'est important de se rappeler que les modèles qui ont existé ont été performants ou pas, mais ce n'est peut-être pas le débat en plus. Je crois que l'intérêt aujourd'hui, c'est de se dire quel parent je veux être. Et de le faire en conscience. C'est-à-dire qu'on a tous hérité, hein, votre témoignage le disait déjà, on a évidemment hérité d'un modèle. Il ne s'agit pas de dire il est bon, il est mauvais, on s'en fiche presque. C'est qu'est-ce que j'ai envie de garder de bon dans ce que j'ai reçu comme éducation et qu'est-ce que j'ai envie de changer, qu'est-ce que j'ai envie de créer, que je devienne un parent libre et responsable qui agit dans sa conscience conformément à ses valeurs, à ce qui est important pour lui et qui bâtit son propre modèle. C'est ça l'intérêt de la démarche aujourd'hui.
Et qui en plus va bâtir son modèle en fonction des enfants qu'il a en face de lui. Chaque enfant est complètement différent, donc il ne pourra pas être exactement le même avec l'aîné, avec le second, avec le troisième.
Ouais. Alors bien sûr, les auditeurs vous écoutent et vous nous appelez maintenant pour nous parler d'un problème précis, d'une situation que vous ressentez dans votre famille, parmi vos enfants, si vous avez une fratrie. 33 1 84 22 71 71.
Mon petit homme, qu'est-ce que tu caches en toi? Qu'est-ce que tu voudrais dire que je n'entends pas bien? Voudrais-tu apprendre de moi des mots pour qu'on communique un peu mieux que ça? Mon petit homme, à chaque fois qu'on se comprend, ça décapsule mon cœur vraiment. Ça décape sans griffer mon sang. Sur ton visage, y'a une carte, un plan. Mais ça rend plus sucré qu'un chamallow. Plus ravi que oui, au pays des marmots. Ça rend débile, c'est vrai, mais ça rend l'appareil. Et mes priorités sont plus claires que la veille. C'est toi, c'est tout le temps toi. Enfouis ça, c'est ta peau, c'est toi. C'est tout le temps toi. Parle des chamallows. C'est toi, c'est tout le temps toi. J'y vais, j'apprends, j'essaie. Avec ce que je suis, toi aussi.
Avant qu'on donne la parole à des auditeurs, Brigitte Kramer et Christine Dimaggio-Donati, j'aimerais que vous nous expliquiez, parce qu'à l'origine, toutes les deux, vous êtes coach en communication, vous avez beaucoup travaillé avec des salariés en entreprise. Comment vous en êtes arrivée à vous intéresser à la parentalité, finalement?
Alors, pour moi, personnellement, j'étais maman de trois enfants, et donc je me suis retrouvée comme
vous
tout.
L'êtes toujours, d'ailleurs.
Et maintenant, je suis grand-mère, j'ai trois petits-enfants. Et donc, je me suis trouvée, comme tous les parents du monde, démunie à certains moments de ma vie, en ayant intégrer les modèles de mes parents qui ne me plaisaient pas toujours, et en me rendant compte que quelquefois, même si je n'étais pas d'accord avec ce qui s'était passé quand j'étais petite, je reproduisais la même chose avec mes enfants. Donc j'ai commencé vraiment à réfléchir, mais très très tôt, j'étais déjà enceinte de ma seconde fille, quand j'ai commencé à me demander quel était le rôle de parent, le parent que j'avais envie d'être, et quel était l'impact de l'éducation que j'allais donner sur l'enfant qu'il allait devenir adulte. Donc j'ai commencé très très tôt, et puis je me suis formée à la PNL, entre autres modèles.
Alors en deux mots, on va expliquer ce que c'est.
Voilà, ce sont des outils de communication et des outils de développement personnel qui sont maintenant largement utilisés dans tous les domaines de la vie et qui vont être un ensemble de techniques pour mieux se comprendre soi et pour mieux comprendre les autres. C'est vraiment mon expertise, elle est dans les relations humaines. Et donc quand j'ai appris toutes ces techniques-là et toute cette approche-là, j'ai commencé à l'utiliser avec mes enfants. Et mes enfants me disaient « Ah oui, il y a maman avant et puis il y a maman après ». Donc je me suis dit « Ça marche ». Et donc moi j'ai d'abord utilisé avec mes enfants. Je suis devenue enseignante en PNL, coach, consultante. Je l'ai utilisé avec mes clients, bien entendu. Et les clients que j'avais dans les séminaires revenaient en disant « Est-ce qu'on peut utiliser vos beaux outils de communication avec nos enfants ?» Ils revenaient, ils avaient utilisé avec les enfants, mais pas nécessairement dans l'entreprise.
Mais alors quand même, on peut s'étonner, Christine Dimaggio-Donati, c'est-à-dire que vous prenez un peu la famille comme une entreprise ? Avec le parent coach, ça m'inquiète.
En effet, la durée de quoi, oui. Non, c'est pas de prendre la famille comme une entreprise, c'est de revenir à la base de la relation humaine. Et ça, on le vit en famille comme en entreprise. La relation humaine, elle existe partout. Mais c'était plutôt de voir que comment dans les entreprises, en effet, on peut déraper et comment parfois les sources de nos dérapages viennent de l'enfance. Et c'est ça, moi, qui m'a intéressée, d'accompagner des dirigeants de haut niveau dans les entreprises et de voir qu'en relation individuelle de coaching, par exemple, on pouvait remonter à ces blessures de l'enfance qui, aujourd'hui, venaient saper son travail de haut dirigeant de haut niveau. Et de se dire quand même, ce terreau de l'enfance qui a été le nôtre, nous influence pour le meilleur et pour le pire, si on ne fait pas un petit travail dessus. Et moi, ça m'a beaucoup intéressée, donc, du coup, de revenir aux origines.
Alors, la notion que vous développez dans votre livre, quand tout devient enfin facile avec nos enfants, c'est une notion, en gros, vous dites aux parents, il faut devenir un parent coach. Certes, on reste parent, mais on devient parent et coach. Ça veut dire, grosso modo, reprendre la main sur une distance avec nos propres enfants, alors qu'on est dans la sphère de l'émotion, voilà. Par définition.
Et justement, c'est ça qui est peut-être un petit peu original dans notre approche, c'est de dire, d'un côté, il y a le parent...
Et contestable, d'ailleurs, aussi.
Bien entendu, il y a eu beaucoup de gens qui l'ont contesté. L'idée, c'est de dire, il y a l'amour inconditionnel du parent. Et quoi qu'on fasse, l'amour inconditionnel, il est là. C'est la relation complètement affective, subjective qu'on a avec nos enfants. Et de temps en temps, pour prendre du recul, on a besoin de ces outils basiques, de ces basiques de la communication, ces basiques de la relation humaine. Et c'est justement cette combinaison qu'on a osé proposer, c'est-à-dire et l'amour inconditionnel du parent et les basiques des relations humaines. Et quand on utilise et cet amour et ces basiques de la relation humaine, et ben en effet, tout devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile avec nos enfants.
Alors, on va démarrer le dialogue avec nos auditeurs, si vous le voulez bien, parce que plusieurs d'entre eux souhaitent discuter avec vous et vous soumettre les questions qu'ils se posent en tant que parents, parce qu'aujourd'hui, qui ne se pose pas des questions avec ses propres enfants, quel que soit l'âge. Nous accueillons Tiburce qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Bonjour Tiburce, vous êtes à Libreville.
Bonjour Emmanuel, bonjour à vos invités aussi.
Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous êtes un papa de 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. En gros, ça va de 5 ans à l'adolescence, 16 ans. Hein, c'est bien ça?
Exactement, oui. C'est ça même.
Alors, quelles sont les questions que vous vous posez en tant que père?
Bon, moi, pour l'éducation de mes enfants, j'adopte 3 approches. Il y a l'écoute, il y a la communication, et bien sûr, il y a aussi j'adopte aussi la communication, bien sûr. Mais il y a une question que je me pose, parce que moi, je tiens compte, je ne fais pas de différence entre les sexes des enfants. Je les éduque d'une même manière pour qu'ils puissent affronter la vie de la même façon, avec les mêmes armes.
Entre les garçons et les filles.
Donc la question que je voudrais poser ici est de demander, est-ce que mon approche, elle convient? Ou bien faut-il adopter une autre démarche pour de différencier dans l'éducation des enfants?
Mais quand vous dites je ne fais pas de différence entre les garçons et les filles, parce que qu'est-ce que vous craignez à la base, Tiburce?
La vie ne fait pas de différence entre les sexes. Aussi, moi,
La société fait une différence quand même.
Voilà. Donc moi, j'observe déjà les enfants pour pouvoir comme ça réagir à différents comportements.
Ouais. Non, mais ce que vous craignez, c'est que vos filles ne se sentent...
Infériorisées, voilà.
C'est
infériorisées par rapport aux garçons.
Ouais.
Voilà.
Et donc, vous les élevez, quand vous dites que vous les élevez exactement de la même façon, à quoi vous pensez par rapport à vos voisins, à d'autres familles
Disons, moi, je les écoute, je discute avec eux, je communique beaucoup avec eux. Et puis maintenant, par rapport aux questions qu'ils me posent, par rapport aux choses qu'ils rencontrent dans la vie ou aux différentes questions qu'ils me posent, je leur donne les armes de la même façon, en principe, pour qu'ils réagissent de la même façon. Voilà.
Et donc, vous voulez savoir si cette approche est la bonne?
Oui. Oui. Ce qu'il y a déjà de formidable, c'est votre approche d'écoute, de les observer pour voir leurs différences et de discuter beaucoup avec eux. C'est vraiment juste formidable. Par rapport à la différence entre garçons et filles, on aurait envie de la déplacer un petit peu ailleurs et de dire que ce soit ou garçon ou fille, de toute manière, nos enfants sont tous différents. C'est-à-dire que même les 2 garçons peuvent être différents, les 2 filles peuvent être différentes. Donc, dans votre votre écoute et dans votre observation de vos enfants, continuer dans le sens de aller regarder leurs différences et de réagir et de les élever en fonction de leur personnalité, en fonction de leur goût, en fonction de leurs différences, et en leur donnant ce cadre commun qui est le modèle de qui vous êtes en tant que papa. Donc au-delà du sexe, au-delà de la différence entre garçons et filles,
c'est plutôt par rapport à la personnalité.
C'est plutôt à la personnalité.
Merci beaucoup de nous avoir appelé, Tiburce.
Merci.
Malolo nous appelle de Pointe-Noire, Congo Brazza. Bonjour Malolo.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous les auditeurs.
Alors vous êtes papa de deux enfants, 5 et 3 ans, deux petits garçons.
Oui, deux petits garçons donc que je salue au passage.
Oui, on vous écoute Malolo. Nous aussi on les salue d'ailleurs, même s'ils n'écoutent pas forcément la radio.
Voilà. Donc j'ai eu moi-même une éducation que j'ai appréciée parce que j'ai eu un papa qui nous accordait du temps. Qui avait le temps de nous apprendre des choses, de chanter, de répondre à nos questions, mais aussi de nous donner la tester lorsqu'on faisait un peu des choses qui n'étaient pas bonnes. Et moi, justement, avec les deux enfants, j'ai deux caractères différents. Donc, il y a le plus grand de 5 ans qui est plutôt calme et pacifique, et il y a le plus petit qui est un peu bat-en-guerre. Il a une grosse personnalité.
Oui.
Et moi, ma question, c'est de savoir comment réussir à trouver l'équilibre entre les deux, parce que la manière de les corriger n'est pas forcément la même. Celui qui est plus calme, il sera enclin à écouter, alors que l'autre, parfois en lui parlant, il résiste un peu.
Oui, c'est ça. En gros, vous ne savez pas comment vous en sortir avec celui qui est plus agité, qui a besoin de bouger, qui n'écoute pas quand vous dites non pour quelque chose. C'est ça, si j'ai bien compris.
Exactement.
Hein.
Oui.
Alors, deux personnalités, deux petits garçons. Très nettement différent.
Oui, un petit. Et c'est souvent ça dans les familles. Et c'est souvent ce que vous vivez, Malolo, c'est souvent des choses que les autres vivent. Et on a deux enfants, ils sont sortis du même ventre. Et c'est des personnalités fondamentalement différentes. Et donc, du coup, comment on s'y prend? Le petit va-t-en-guerre, comme vous dites, si c'est surtout un enfant qui est un peu plus actif, un peu plus bougeant, un peu plus remuant, un peu plus. Il va falloir s'adapter à ce mode et peut-être ne pas nécessairement vouloir corriger le fait qu'il soit plus remuant, plus bougeant, plus actif, mais que peut-être parfois ses comportements peuvent l'amener à prendre des risques, peut-être qu'il va tomber ou faire tomber des choses, etc. Donc on peut néanmoins lui apprendre la prudence pour lui, la prudence pour les autres, tout en respectant le fait que ce gosse-là a besoin de bouger et que ce gosse-là a besoin de s'exprimer différemment et qu'il va falloir faire, si je ne sais pas si je suis bien claire pour vous, Malolo, mais de dire oui, il bouge et c'est super. Il a un tempérament qui fait qu'il bouge, il a une belle personnalité. Et en même temps, moi, en tant que parent, j'ai besoin de lui apprendre parfois à se poser, à être plus calme, à respecter un peu mieux les choses peut-être. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait qui, du coup, est dérangeant. Mais le simple fait qu'il soit plus va-t-en-guerre, je dirais, n'est pas un défaut en soi et n'est pas un problème à corriger en soi. C'est quelles sont les conséquences de cette attitude qui sont dérangeantes pour vous. Et du coup, prendre des instants où il va être fatigué, ça doit lui arriver en fin de journée. Et ces moments de où justement il prend son bain, il se repose, peuvent être des moments de discussion où on revient sur les événements un peu agités de la journée et où on discute et on prend
c'est
le
ça.
Temps.
Donc il y a un moment de la journée, en fin de journée, si c'est le moment où il est calme, hein,
c'est
en tout cas
ça.
Repérer un moment où l'enfant est
c'est
calme
ça.
Pour faire le point et reparler de ce qui s'est
c'est
passé.
C'est ça. Les parents ont souvent tendance à vouloir tout faire tout de suite en même temps. Peut-être qu'il y a un moment où on est dans la vie et dans l'action, et puis il y a un moment où on peut être dans la discussion.
Un enfant à 3 ans se souvient bien des événements qui se sont succédés dans la journée.
Ben oui, tu vois,
il y a eu des moments d'agitation
dans la journée,
intense.
On est bien d'accord,
bien
on va pas parler de la semaine dernière. Mais là, tout à l'heure, on était au jardin d'enfants et tu n'as pas voulu partir alors que je souhaitais partir. Et tu te rappelles, on s'est disputé, tu t'es même mis à pleurer. Je voudrais quand même qu'on en reparle et qu'on puisse discuter de ça ensemble et que voilà, tu puisses me dire ce qui s'est passé pour toi et je vais t'expliquer ce qui s'est passé pour moi. Oui, quand les événements sont proches, on peut en reparler et différer légèrement le moment. Tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, absolument. Et on arrive sur une de nos approches qui est très très simple aussi, qui rend la vie un peu plus simple. C'est cette idée de cadre non négociable. C'est-à-dire que moi, le parent, je décide comment je vais éduquer mon enfant, quelles sont les règles qu'il doit respecter, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi et qu'il doit respecter aussi. Et cette idée qu'à l'intérieur de ce cadre non négociable du parent, il y a la liberté de l'enfant à l'intérieur selon sa personnalité.
Bien sûr. Et on explique aussi les règles. Merci Malolo de nous avoir appelés. J'espère que les conseils vous ont été utiles.
Merci beaucoup vraiment. Je vous remercie pour ça.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, c'est 7 milliards de solutions possibles.
Communiquons le plus possible.
Plus qu'une émission, c'est devenu une famille.
Tout part d'un rêve. Tout part d'un rêve.
C'est 7 milliards de cœurs qui se mettent en commun pour n'en former qu'un seul.
7 milliards de voisins. Nous discutons de la parentalité aujourd'hui, puisque chaque vendredi, ce sont des questions d'éducation qui sont abordées. Et vous nous appelez pour dialoguer avec nos invités au 33 1 84 22 71 71. Nos invités, Brigitte Kramer et Christine Dimaggio-Donati, vous avez publié Quand tout devient enfin facile avec nos enfants. Vous insistez aussi, alors vous nous disiez en première partie, il y a différents modèles de parents, on va peut-être rentrer un peu plus dans les détails. Vous, ce que vous revendiquez, c'est un nouveau statut plus adapté au monde d'aujourd'hui, un statut de parent coach, un parent qui aurait donc à la fois qui serait dans l'émotion et dans l'amour, comme le sont tous les parents, mais également avec plus de recul hein, par rapport à ce que peuvent ressentir Absolument. Les enfants pour mieux comprendre, mieux décoder, mieux se mettre aussi à la place des enfants et évidemment pouvoir continuer à assumer toute autorité que doit assumer le parent. Vous établissez dans votre livre trois modèles de parents dominants, permissifs, planificateurs. C'est bien ça, Brigitte ?
Oui, tout à fait. Donc le parent dominant, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est celui qui a l'autorité et qui va la manifester d'une manière ou d'une autre. Alors il peut être tout à fait gentil ou peut être quelquefois même un petit peu violent, même physiquement, hein, le parent dominant. En tout cas, c'est lui qui décide et la règle, c'est la règle. Il n'y a pas de marge de négociation pour les enfants. Le parent permissif, il est venu un petit peu plus tard où il arrive dans certaines familles, c'est-à-dire que pour ne pas culpabiliser, pour être vraiment le bon parent ou pour faire le contraire de ce que moi j'ai vécu quand j'étais enfant, parce que moi j'avais des parents dominants, bah du coup je vais tout lui laisser faire. C'est-à-dire tu peux monter sur la table, tu peux manger quand tu veux, tu peux t'endormir à n'importe quel moment. Et donc ce parent-là, il va se retrouver avec des enfants qui vont bah, peut-être un petit peu lui marcher sur la tête et son autorité, il a du mal à la poser. Mais du coup, il va se demander comment ça se fait que ses enfants ne le respectent pas complètement alors qu'il leur a laissé tout faire. Et puis là, on est un petit peu dans une ère avec des parents qui sont de plus en plus actifs, dans les familles composées, décomposées, recomposées, ou alors avec les deux parents qui travaillent. On va se retrouver avec des parents qu'on a appelés planificateurs. C'était un petit peu...
Non mais on voit très bien.
Hein, vous voyez bien.
Oui, on est arrivé à ce mot-là. On a hésité entre planificateur et gestionnaire. On a trouvé que le planificateur était moins dur que le gestionnaire, mais on trouvait que quand même, ils géraient beaucoup leurs gosses, hein,
oui,
finalement.
Oui, oui. D'ailleurs, ils le disent. Hein,
vous en rencontrez beaucoup des parents planificateurs,
mais
vous,
maintenant,
là.
Maintenant, on est dans l'ère du parent planificateur.
C'est-à-dire, je suis un parent super cool, mais je planifie tout. Il n'y a plus d'espace.
C'est ça, ils vous disent, j'ai la liste des courses à faire, les sorties et les gosses. Et tout ça est presque mis sur un même niveau et on se rend compte qu'en effet, la place donnée à l'enfant, le temps, est réduit à un temps qui est géré, c'est-à-dire casé, entre deux autres activités. Et en ce sens, la relation familiale, elle est planifiée, elle est gérée vraiment en fonction de l'horloge.
Voilà. Et la difficulté qu'on voit chez les enfants que nous, on reçoit en cabinet, c'est que le parent planificateur, selon les moments, sa manière d'éduquer son enfant va être différente. C'est-à-dire qu'il n'a pas de temps consacré à son enfant, et tout d'un coup, il va être super permissif. Oui, mon chéri, tu peux jouer à la tablette, d'habitude, tu avais droit qu'à une heure, et puis maintenant j'ai quelque chose à faire, donc tu as droit à deux heures. Et puis quelquefois il peut être tout à fait dominant parce que là il a un rendez-vous, il faut qu'on y aille, et puis tout d'un coup il n'y a plus aucune marge de négociation. Donc ce qui est compliqué pour les enfants et pour les enfants d'aujourd'hui, c'est qu'ils vont se retrouver avec un parent qui peut être soit super dominant, soit super permissif, et qui est ou l'un ou l'autre, mais ça ne dépend pas de lui, ça va dépendre de la planification des parents.
Et pas facile pour l'enfant de dire quelque chose à son parent, à ses parents, parce qu'on voit bien, la parole de l'enfant, elle se libère à n'importe quel moment, et pas du tout au moment où on l'avait prévu,
exactement,
d'ailleurs.
Exactement. Et c'est pour ça que les parents d'aujourd'hui se posent beaucoup plus de questions, peut-être, j'en sais rien, qu'avant, parce que, du coup, la relation des enfants à leur autorité est très questionnée. Les enfants vont dire, mais pourquoi tout à l'heure j'avais le droit, et puis maintenant j'ai plus le droit? Ah ben maintenant, t'as plus le droit parce que c'est comme ça.
Parce que j'ai plus le temps.
Parce que moi, j'ai plus le temps.
Ce qui est une réponse difficile à assimiler. Voilà. Quand même.
Donc du coup, entre le parent dominant, il n'y avait pas de discussion possible, le parent permissif où l'enfant faisait absolument ce qu'il voulait, ce parent planificateur dans notre société d'aujourd'hui qui a pris le pas, ça devient une relation compliquée pour les enfants, avec des enfants qui ne savent plus non plus sur quel pied danser, où aller l'autorité dans tout ça, et c'est la raison pour laquelle on revient avec cette idée, avec deux idées principales. Moi en tant que parent, j'ai une structure, j'ai une éducation, j'ai un fil conducteur, j'ai un cadre qui est assez précis, et je vais laisser la liberté de l'enfant à l'intérieur de du cadre. Mmh. Et la deuxième idée qui est de dire, moi en tant qu'adulte, en tant que parent, j'ai des besoins qui sont absolument légitimes, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de faire les courses, et les besoins de l'enfant qui sont par définition complètement différents de ceux des adultes, et comment le parent coach, justement, il va prendre en compte ses propres besoins et aussi les besoins de l'enfant, il va trouver des moyens pour trouver des solutions ensemble avec leurs enfants.
Oui, facile à dire, plus compliqué à faire.
Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Well, some people try and treat me like a man. Yeah, some people try and treat me like a man. Well, I guess they just don't understand. Yeah, some people try and treat me like a man. They think I know shit, but that's just it, I'm a child. Well, I need you to tell me what to wear. Me comb my hair. Yeah, I need you to help me tie my shoes. Yeah, I need you to come keep me amused. From my cave to my grave, I guess I'll always be a child. Well, I need you to help me reach the door. And I need you to walk me to the store. Explain the war, and I need you to heal me when I'm sore. You can tell by my smile that I'm a child. And I need you to sit me on your lap. And I need you to make me take my nap. Could you first pull out a book and read me some of that? Cause I need you to make me take my nap. And I need you to recognize my friends. Cause they're there even though you don't see them. They got their own chair, a plate, and a seat. You know I won't touch my food unless they eat. From the roof to the floor, I crawl around some more. I'm a child.
7 milliards de voisins.
Sur RFI.
Nous accueillons un voisin qui est à Moundou, au Tchad. Bonjour Justin, vous êtes papa d'une petite fille de 2 ans. Déjà, bravo.
Oui, j'ai 29 ans. Voilà, donc je suis le père d'une fille de 2 ans. Et la fille s'intéressait beaucoup plus à moi qu'à sa maman. Elle est dans la nuit, elle voulait absolument d'abord me faire des câlins avant de dormir, et à mon absence, elle pleurait. Et de ce fait, dans le quartier, les voisins critiquent beaucoup plus que c'est pas une bonne manière, et d'autres me prennent à une référence, surtout d'être un bon père. Donc, je voudrais savoir si cela est une bonne manière ou c'est mauvais, et comme je suis encore jeune, j'aurai encore d'autres enfants, est-ce qu'il vient de continuer sur cet élan ou bien changer?
Justin, alors il y a un petit décalage avec la ligne téléphonique, mais on a bien compris votre propos. Hein. Votre petite fille de 2 ans vous adore et ne peut pas s'endormir si elle ne pose pas sa délicate petite main sur votre main. Et vous êtes un papa évidemment sûrement très tendre avec votre petite fille et vous vous interrogez. Certains voisins disent oulala, il est trop proche de sa fille. D'autres disent c'est un papa modèle. Hein. Alors évidemment, dans ces cas-là, on ne sait plus sur quel pied danser, surtout quand on est un jeune père de 29 ans. Qu'est-ce que vous diriez à Justin, vous, mesdames?
Moi, je dirais tout simplement à Justin que c'est vrai qu'on vit un peu, malgré nous, parfois, sous le regard des autres et sous l'influence des autres. Néanmoins, un parent qui agit avec son cœur, en son âme et conscience, et qui vient câliner son enfant autant qu'il en a besoin, est un parent qui répond aux besoins de son enfant. Et que cela devrait suffire pour nous dire « je suis sur le bon chemin » et parfois ne pas être influencé guider par le regard des autres et répondre juste aux demandes d'affection. Il y a des enfants qui aiment vraiment beaucoup, beaucoup être câlinés. Ils ont vraiment besoin de du contact qui leur donne toute la sécurité émotionnelle dont ils ont besoin. Donc oui, moi je ne vois aucun problème.
Voilà, ne pas s'inquiéter du regard des voisins.
Oui.
Gérard nous appelle de Yaoundé. Bonjour Gérard.
Bonjour Emmanuel.
Gérard, il faut couper la radio si elle est allumée à côté de vous, hein, parce que ça va faire un écho. Vous êtes un papa depuis 15 mois et ça, c'est un problème dans votre vie.
Oui, oui, oui. En fait, j'ai 36 ans et je suis papa depuis 15 mois. Et bien avant que sa maman et moi, la maman de l'enfant et moi, on n'était pas assez bien dans la relation. Donc, notre relation n'était pas encore assez forte pour que nous puissions nous décider à avoir un enfant,
oui.
À s'engager dans ce chemin-là.
Mm-hmm.
Et puis, l'enfant est arrivé et dès lors de l'arrivée de l'enfant, bien que je veux tout lui offrir, bien que je veux lui donner tout ce qu'un parent peut bien donner à un enfant, je ne supporte plus sa maman. J'ai du mal à la sentir et puis bon. Je souhaite vraiment qu'on m'aide. Je ne voudrais pas que l'enfant ressente cette situation.
C'est ça. Vous avez peur que votre enfant ressente vos problèmes de couple et le fait que cet enfant n'a pas été désiré. Parce que, en fait, si je comprends bien, cela partait d'une sage analyse de votre part. Vous ne vous sentiez pas suffisamment sûr de votre couple pour avoir un enfant. Donc, vous n'avez rien à vous reprocher dans cette histoire, Gérard.
Je ne sais pas, mais j'ai peur. Je sais que je ne suis pas une mauvaise personne et je ne voudrais pas devenir un mauvais papa. Je voudrais devenir un bon papa.
Et alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes content malgré tout d'avoir cet enfant dans votre vie?
Je suis content d'avoir l'enfant, mais la maman et moi, ça ne marche pas.
Oui. Ça, on a bien compris que ça ne marchait pas.
Ouais.
Mais ce sont deux choses bien différentes.
Oui, c'est ça. Peut-être qu'en effet, Gérard, il y a peut-être deux choses à distinguer. La relation avec la maman, bon, c'est votre histoire d'adulte, hein, c'est votre histoire entre hommes et femmes. Un petit bébé est là maintenant, il a 15 mois, lui, il a juste besoin de votre amour. Et je pense que vous en avez. En tous les cas, si vous vous en souciez, c'est que vous en avez. Donc, aimez-le dans l'ici et maintenant. Je pense que c'est de la seule chose dont lui a besoin. Et le mettre, en effet, à l'abri... de vos difficultés de couple qui sont pour lui un tout autre problème dont il faut, je dirais, le protéger pour l'instant. Et pour l'instant, cet enfant est là, Gérard, et bien continuer à l'aimer, le cajoler, être présent pour lui dans l'ici et maintenant. Et le reste se résoudra avec le temps que vous vous donnerez pour le résoudre. Mais ce sont en effet deux choses distinctes.
Oui, tout à fait. Et c'est vraiment important. L'enfant, il a besoin d'un amour. Il a besoin d'avoir des preuves d'amour. Il a besoin d'avoir des manifestations d'amour. Il ne suffit pas d'aimer les enfants simplement à distance en disant « mais je l'aimais ». C'est vraiment lui montrer dans la vie de tous les jours. Et c'est ça le plus important, Gérard.
Un enfant peut être tout à fait éduqué dans l'amour, dans l'attention, même si ses parents ne s'entendent pas.
Absolument,
hein.
Absolument. Absolument.
Gérard, est-ce qu'on vous a rassuré? Parce que je vous sens inquiet tout de même à Yaoundé.
Je suis inquiet, mais je suis rassuré quand même.
Oui, mais vous avez toutes les raisons de l'être, hein, parce que votre inquiétude témoigne que forcément vous allez bien faire avec votre enfant. Moi, j'en suis sûre. Merci de nous avoir appelés. Vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Hosanna, et dans le sud du Tchad, à Béboto. Bonjour Hosanna.
Oui, bonjour Emmanuel et bonjour à vos invités.
Ouais. Hosanna, vous souhaitez soulever une question sur la notion d'éducation sur le continent africain.
Oui, c'est en fait un témoignage. Je suis marié. Ma femme est actuellement enceinte et ça me fait penser que pour bien éduquer son enfant, c'est de lui donner l'affection et bien orienter. Connaître ses problèmes et vraiment dialoguer avec lui à chaque fois que cela est nécessaire. On doit parfois être sévère et un peu dur avec l'enfant, pas par la pure méchanceté, mais plutôt dans l'esprit de lui offrir une bonne éducation et une belle avenir. Mais malheureusement, ici en Afrique, les parents n'ont pas vraiment cette potentialité. Il pense seulement être très sévère et cela révolte parfois les enfants. D'ailleurs, moi, j'ai eu cette relation terrible et tendue avec mon père.
Oui. Qui vous battait, c'est
pourtant,
ça?
Pourtant, les parents sont ceux-là qui... Oui, les parents sont ceux-là qui doivent écouter leurs enfants et connaître vraiment leurs difficultés pour apporter enfin des solutions possibles. Que de se lever comme ça et agir en faisant usage de leur autorité de parents. Ouais. Donc moi, surtout, je ne veux plus reproduire ce même schéma que j'ai avec mon papa sur mon enfant.
Oui, ouais, on a bien. Oui, ouais, c'est ça. Vous voulez réinventer autre chose et vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Et pas besoin d'être sur le continent africain pour se poser ces questions-là. Hein. Merci de nous avoir appelé, Hosanna. Alors voilà, de jeunes pères qui ont grandi avec un parent dominant, avec un parent violent d'ailleurs, bien souvent, qui ne veulent plus reproduire cela, qui ne savent pas comment s'y prendre. On peut peut-être en venir, parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission, à vos conseils de base du parent coach, toutes les deux.
Oui, la sévérité dont parle Hosanna, elle peut être remplacée par justement un cadre qui est posé clairement et la prise en compte de la personnalité de notre enfant. Quand on entend beaucoup de parents qui disent « je parle beaucoup avec nos enfants ». Et quand on leur demande « qu'est-ce que vous faites concrètement ?», en fait, ils expliquent pourquoi ils ont des règles comme ça, mais n'écoutent pas nécessairement ce dont les enfants ont besoin. Donc, l'autorité, la sévérité n'aura plus besoin d'être là si l'autorité, elle est comprise et surtout si elle peut être adaptée aux besoins de chaque enfant. Donc on a, par exemple, quand les enfants font des bêtises, comment est-ce qu'on fait? On a cette idée de dire qu'il vaut mieux faire réparer une bêtise plutôt que de la punir. Parce que si l'enfant reçoit avec sévérité une punition, une réprimande ou même des coups, de toute manière, son cerveau, et maintenant grâce aux neurosciences on en sait un petit peu plus là-dessus, ne peut pas gérer la peur qu'il a de son parent, la crainte qu'il a de la réprimande, de la colère ou des coups.
Et concrètement, à quoi vous pensez pour remplacer la fessée ou la punition par une peine de réparation?
Eh bien, par exemple, tu as bousculé, tu as cassé quelque chose qui était important pour moi, le parent, et ben tu vas le réparer, tu vas le recoller.
Un enfant de 5 ans, 6 ans
Eh bien, par exemple, ça peut être très simple, même si ça ne répare pas toute la faute, mais par exemple on va aller acheter de la colle, c'est un exemple que je donne, mais on va acheter de la colle et tu vas le réparer. Tu as bousculé un petit copain à l'école et tu as été réprimandé, à ce moment-là allons voir comment tu vas pouvoir aller faire un cadeau à l'enfant, comment tu vas lui écrire un poème, comment tu vas aller t'excuser, et plutôt le plus la réparation est proche de ce qu'on appelle la bêtise et le plus ça devient éducatif et ça devient
qui permet une prise de conscience
permet,
chez l'enfant.
Voilà. Hein. Alors que quand la punition...
Qui n'est pas un échappatoire d'ailleurs à la punition, parce qu'elle est souvent, la peine de réparation, elle est dure souvent à faire pour l'enfant. S'il s'agit d'une peine d'intérêt général, tu vas aller balayer la cour, par exemple. Voilà.
Parfois, elle est dure à faire et elle est incompréhensible. Et c'est là que le problème se pose. Quand la peine... Et c'est vraiment le mot est
mais
bien choisi.
La réparation, ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas une punition de laxisme, ça n'est pas un choix laxiste, selon vous. Hein.
Non, le fait d'aller réparer, c'est l'idée d'aller passer le message. Tu as fait quelque chose qui n'est pas acceptable, répare le non-acceptable. De la manière dont on va y réfléchir ensemble, mais en tous les cas, ça a en effet une portée de prendre conscience que ce que tu as fait n'est pas OK.
Oui.
Et de la même manière que tu l'as fait, tu vas donc le réparer, c'est-à-dire tu vas le compenser, tu vas apporter quelque chose d'une correction.
Est-ce qu'en résumé, vous pouvez nous redonner les principaux conseils que vous donnez pour être un parent coach? Alors il y en a 7, je ne sais pas si on va pas entrer dans les détails, mais les plus importants d'entre eux, il y a notamment le fait de vous proposer vraiment de partir à la découverte de ses enfants, Christine.
Et c'est vrai que l'idée, oui, on entend souvent les parents, nous, dans nos séminaires, dire les mamans surtout, pardon, mais de dire je le connais, je l'ai porté quoi, hein, c'est le mien, et du coup parce que c'est le mien, je vais répondre à sa place, je sais ce qui est bon pour lui, je sais ce qu'il faut faire pour lui, je sais tout, et ignorer quand même à un moment que cet enfant est une personne, ça a l'air basique, mais en même temps à part entière, avec d'autres désirs que sa maman.
Ouais. Encore faut-il savoir écouter son enfant, et pour ça il faut savoir poser les bonnes questions.
C'est ça, l'écouter vraiment et lui poser en effet des questions qui vont permettre de le comprendre dans son mode de fonctionnement et dans ses besoins.
Ouais. Et alors là, un conseil tout simple qu'on donne aussi aussi aux journalistes, ne pas poser de questions fermées. Est-ce que ta journée s'est bien passée? Non. Comment s'est passée ta journée?
Quel est l'événement le plus sympa de ta journée? Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ta journée? Voilà. Qu'est-ce que tu as vraiment appris aujourd'hui?
Là, voilà. On ne peut pas répondre par oui ou par non. Absolument. Donc, l'enfant va s'exprimer davantage.
C'est ça.
Bon, il y a d'autres conseils comme ça à découvrir dans votre livre, quand tout devient enfin facile avec nos enfants. Merci à toutes les deux, Brigitte Kramer, Christine Dimaggio-Donati. Vous vouliez ajouter quelque chose, je crois.
Oui, on doit toujours avoir en tête que de toute manière, sans le vouloir, sans le savoir, on va faire des bêtises et que c'est pas grave parce que tout se répare, parce que nous, on aime nos enfants de manière inconditionnelle, mais eux aussi nous aiment de manière complètement inconditionnel.
Ouais, voilà, et passer un petit peu de temps avec ses enfants, ouais, souvent en fait gagner beaucoup. Absolument. Parce que ça évite beaucoup d'incompréhension, oui, et de problèmes. Merci à vous tous, merci, les voisins et les voisines, pour vos appels. Et merci, merci à vous, Brigitte Kramer, Christine Dimaggio-Donati. Quand tout devient enfin facile avec nos enfants, c'est publié aux éditions Josette Lyon. Programme Revival que nous a concocté Hugo Violas, le groupe Téléphone, je suis partie de chez mes parents. Dans quelques instants, ce sera la chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants d'ici et d'ailleurs.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. On en parle chaque semaine avec vous, Marie-Rose Moreau. Bonjour.
Bonjour, Emmanuel.
Vous êtes pédopsychiatre. Et aujourd'hui, on va parler des enfants sacrés. On dit souvent cette phrase de la part de parents, « Ah, mes enfants, c'est sacré ». Nos enfants sont-ils sacrés? Nos bébés, nos enfants, nos adolescents sont-ils à considérer comme sacrés?
Oui, effectivement, dans nos sociétés, en Europe, aux États-Unis, où il y a peu de choses finalement qui restent sacrées, on perd la notion de sacré, eh bien il reste des parcelles de sacré dans les enfants et dans la relation que nous avons avec eux. On dit que c'est une immense richesse, que c'est la chose la plus importante, qu'il faut les protéger, les préserver, et on veut qu'ils nous aiment, on veut être aimé de nos enfants parce que c'est très important, c'est sacré. Et en Afrique, en Asie, où peut-être la relation sacrée est un peu différente, on retrouve la même chose, c'est-à-dire l'importance du fait que les enfants ont des liens avec le monde invisible, avec les ancêtres, avec des rituels. Dès qu'ils naissent, on va leur parler de Dieu, on va les présenter aux forces importantes que l'on vénère.
Comment ça se manifeste? Alors, concrètement?
Concrètement, par exemple, je me souviens d'une maman Bambara du Mali qui a une enfant Bintou de 5 ans qui, aux yeux des médecins, est considérée comme aveugle. Et la maman m'expliquait que cette Bintou, c'est une enfant singulière, c'est-à-dire qu'elle, bien sûr, elle ne voit pas les choses concrètes, les choses matérielles, mais elle voit des choses du monde invisible, elle voit les choses importantes, elle est capable de voir ce que nous ne voyons pas parce que nous voyons les choses du quotidien. Et d'ailleurs, du coup, elle considère que sa fille, elle a des compétences, non pas que c'est une enfant handicapée, mais qu'elle a des compétences, et des compétences plus importantes que d'autres enfants. Et par exemple,
façon de repositiver le handicap surmonter.
Ça n'a plus rien à voir. Et elle dit, mais voilà, du coup, par exemple, elle joue avec les mots, elle crée des poèmes. Et c'est vrai que Bintou, à 5 ans, elle est experte en poésie, et pas seulement en français, mais aussi en Bambara. Et je pensais aussi, par exemple, au Sénégal. J'ai souvent entendu des parents me parler devant des enfants qui n'étaient pas comme les autres, de me dire, mais attention, cet enfant, par exemple, c'est un enfant Nidkoubon. C'est-à-dire, c'est un enfant qui est un enfant qui a plus de relations avec le monde des ancêtres qu'avec le monde visible. Et pareil, on retrouve des enfants singuliers en Afrique centrale.
Et en France, alors
mais en France,
parce qu'en France, le mot sacré n'a pas tout à fait le même sens. Dans un pays où on choisit le nombre d'enfants que l'on souhaite avoir, l'enfant sacré, ça veut dire c'est l'enfant qui passe avant tout, peut-être avant son travail, avant d'autres objectifs dans la vie, non? Ça ne veut pas dire qu'il a des pouvoirs.
Si, je pense que ça veut dire que la relation qu'on a avec les enfants est quelque chose de transcendant, quelque chose de très très fort, quelque chose de viscéral. Et je pense par exemple à Françoise, qui était une dame de 42 ans que j'ai rencontrée alors qu'elle avait déjà, depuis une dizaine d'années, elle essayait d'avoir un enfant. Elle avait fait plein de tentatives de procréation médicalement assistée et ça ne marchait pas. Elle était même allée en Espagne puisqu'elle avait dépassé l'âge en France et ça ne marchait toujours pas. Et elle avait décidé d'adopter. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle est venue me voir. Son mari n'était pas d'accord, mais peu importe, elle a conclu l'entretien en me disant « Vous savez, madame, les enfants, c'est sacré. » Elle ne m'a pas dit « C'est sacré pour moi ». Elle m'a dit « C'est sacré d'une manière générale. » C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vous tire, qui vous transforme. C'est une initiation. Et c'est donc quelque chose d'extrêmement important de considérer que, quel que soit ici ou ailleurs, dans la relation que nous avons avec nos enfants, il reste quelque chose, une trace de sacré.
Lundi, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur les voitures d'occasion en Afrique. Les France au revoir, leur provenance évolue, nous suivrons leur route de l'Europe à l'Afrique. Et quant à vous les voisins, nous entendrons vos témoignages. Que pensez-vous de ces voitures, prix, sécurité, environnement et réparation? Ne manquez pas l'émission à lundi les voisins et les voisines.